Merci David. Bonjour à tous. C'est une super occasion pour moi de pouvoir être là et de pouvoir partager quelque chose avec vous. Alors, il y a un thème que j'avais envie d'aborder depuis un moment, qui me parle personnellement. Elsa, est-ce que tu peux mettre le PowerPoint en marche? Impec, merci beaucoup. Ce matin, le thème que j'aimerais aborder, c'est le thème de la comparaison. Et j'aimerais nous encourager dans ce domaine. Alors, pour illustrer mon propos, plutôt que de parler que en texte, j'avais envie de vous proposer une illustration. Alors, je demande à trois personnes à qui j'avais demandé. Nathan, si tu peux venir, Thomas, si tu peux venir, et puis Farid. Si vous pouvez venir devant là et vous mettre en ligne, les uns à côté des autres. Super, tout le monde vous voit bien, c'est bon. Alors, pour illustrer comment c'est ce message, je vais prendre un objet que je vais donner déjà à Farid. Farid, je voudrais te donner ce portable. C'est un portable que j'ai acheté cette année, donc il n'est pas flambant neuf, mais presque. Et il fonctionne avec toutes les applis. On peut aller sur Internet, on peut prendre de belles photos avec, on peut faire pas mal de choses. Donc voilà, je vais te le donner. Comment tu te sens maintenant que je t'ai donné ça?
Je me sens très honoré. Je vais pouvoir avoir WhatsApp. Je suis très très honoré, merci, je ne te le rendrai pas.
Ok, donc Farid, vous voyez, il est ravi, il est super content d'avoir un cadeau. Je vais maintenant donner un autre cadeau. Voilà un lecteur MP3 ancienne génération, qui ne marche plus d'ailleurs, mais qui a servi longtemps. Et je vais donner ce magnifique MP3 à Thomas. Thomas, comment tu te sens maintenant?
Perdu, je pense.
Un peu perdu, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment ça te fait que Farid ait eu un super portable, même si toi t'en as un, oublie que t'en as un pour 2 minutes?
Sais pas s'il saura s'en servir plus que ce que je sais m'en servir de ça.
Ok, mais est-ce que t'es pas un peu dégoûté quand même qu'il est quelque chose qui a plus de valeur?
Un petit peu.
Un petit peu, ok. Farid, comment tu te sens maintenant que j'ai donné ça à Thomas?
Fier.
Encore plus satisfait du coup. Oui. Et maintenant, troisième cadeau. Alors Nathan, je te demande de prendre soin de ça parce que s'il se cache, je ne sais pas si je pourrais en racheter un. Hein, voilà. Et c'est pas à moi. Je te remets un MacBook. C'est un très beau cadeau. Tu peux regarder des vidéos avec, tu peux aller sur Internet, tu peux faire la retouche photo par exemple, tu peux même faire la retouche vidéo. Tu peux faire énormément de choses avec. Tu peux même t'enregistrer, par exemple, et chanter dessus, faire de la musique avec. Comment tu te sens maintenant, Nathan, que je t'ai donné ça?
Très bien.
Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir reçu un truc qui a encore plus de valeur que les autres?
Content.
T'es content? Ouais. Farid, comment tu te sens maintenant que j'ai donné ça à Nathan?
Un petit peu déçu. Je trouve ça un peu injuste.
Ouais, c'est un peu injuste, ouais. Thomas, comment tu te sens maintenant que j'ai donné ça à Nathan?
Je suis dégoûté.
Très bien, merci à chacun. Vous pouvez, je vais récupérer ça. Je vais te le rendre tout de suite, Thomas, comme ça c'est fait. Merci. Merci, on peut les applaudir pour les remercier. Alors, c'était une petite illustration, mais simplement pour nous faire prendre conscience que très souvent dans la vie, on analyse comment on se sent et notre sentiment de bonheur peut venir de à quel point on se sent satisfait par rapport à ce que les autres autour de nous ont. Que ça soit matériel ou pas d'ailleurs. Et notre sentiment d'insatisfaction du coup qui peut naître, ou de satisfaction qui vient de ce que les autres autour de nous peuvent avoir. Ouais, super, ça marche. Donc pour aborder ce problème de la comparaison, donc pour chacun de nous, là j'ai pris un exemple très matériel que sont les nouvelles technologies. Pour certains d'entre nous, peut-être ça nous parle. Et puis peut-être pour d'autres, ça va être d'autres domaines dans lesquels on va sentir qu'on peut être facilement dans la comparaison. Peut-être pour certains, ça va plus être par rapport au travail. Tiens, lui, il a l'air de mieux réussir dans son travail, ou il a un job que j'aurais toujours voulu avoir. Ou ça peut être même au niveau des familles. On peut se dire, tiens, eux, leur enfant, il a le même âge que le nôtre, et pourtant, il arrive à faire des trucs que le nôtre, il n'arrive pas encore à faire. Ou alors la réussite scolaire même des uns et des autres. Peut-être quand on est plus jeune, ça peut être la marque de nos vêtements. Tiens, il a les dernières Vans, ou il a le dernier portable qui vient de sortir. Pour les enfants, ça peut être peut-être les jeux vidéo ou le jouet qu'on a toujours voulu et puis que l'autre il a pu avoir et pas nous. Ou même, par exemple, si on est célibataire, on se dit, oh, on regarde une famille et puis on se dit, oh, la chance, lui, il a trouvé sa femme ou elle a trouvé son mari, puis ils ont des enfants et puis pas moi. Et inversement, les maris, on peut se dire, oh, la chance, il est célibataire, il n'a pas de femme ou de mari, il n'a pas d'enfant. Il y en a qui rigolent, donc peut-être ça parle. Tout ça pour dire que peut-être finalement une tendance naturelle à évaluer nos performances dans différents domaines en fonction de ce qui se passe autour de nous et en fonction de la situation de ceux qui nous entourent. Souvent, c'est des personnes qui nous ressemblent ou qui ont des points communs avec nous. Et je pense que souvent, ça touche un besoin très profond, c'est qu'on a besoin de se rassurer sur notre valeur personnelle. On a besoin de se rassurer sur le fait qu'on a de la valeur. C'est un thème qui me parle vraiment personnellement parce que je pense que j'ai pu comprendre que moi, j'étais beaucoup dans la comparaison avant, notamment avant mon adolescence. Et parce que j'étais assez différent en tant qu'enfant des gens qui m'entouraient. Je n'avais pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Je voyais les garçons de mon âge jouer à des trucs qui ne m'intéressaient pas du tout. Et facilement, je me suis senti dans la comparaison et me dire, mais en fait, est-ce que je suis normal? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai le droit d'être moi-même finalement? Et puis, pendant un camp que j'ai fait, RDV, pour ceux qui connaissent, pendant mes 16 ans, il y a quelqu'un qui est venu prier pour moi, Julien Adams, pour ceux qui connaissent, et puis m'a donné une parole. Et à partir de là, j'ai eu un déclic sur le fait que je pouvais vraiment accepter la personne que j'étais en Dieu et arrêter de me comparer. Et ce n'était pas grave d'être différent des gens autour de moi. Et j'espère que c'est ce que beaucoup d'entre nous on a expérimenté ou qu'on expérimentera. Le problème aussi de la comparaison, c'est que souvent, elle peut nous pousser à la convoitise ou à la jalousie. Elle peut nous pousser à des choses contre lesquelles Dieu nous met en garde au travers de la parole. Par exemple, dans Exode 21, verset 17, Dieu dit à son peuple, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à l'autre. Et Paul nous dit aussi, dans Romains 13, 12 à 14, conduisons-nous honnêtement, sans dispute ni jalousie. Comme on l'a vu avec l'exemple aussi, la comparaison peut facilement nous tirer vers l'arrogance ou vers la dévalorisation. Par exemple, Nathan qui a reçu le MacBook, il aurait pu se dire « Waouh, j'ai un MacBook, c'est-à-dire que je suis meilleur que les autres, ça veut dire que j'ai plus de valeur que les autres. » À l'inverse, Thomas qui a reçu un MP3 qui ne marche pas, il aurait pu se dire « Ben moi, ça veut dire que j'ai pas de valeur, que je suis j'ai moins de valeur que les autres. » Et souvent, on peut se jauger dans notre estime de nous-mêmes par rapport à ce que les autres autour de nous ont. Et on sait que finalement, Dieu nous demande de mettre notre valeur dans ce que lui dit de nous. J'aimerais faire une parenthèse aussi et dire que pour moi, ce n'est pas la même chose d'être dans la comparaison et dans l'imitation de quelqu'un. Pour moi, une comparaison, c'est plutôt comme si on était dans une course et puis finalement, mes yeux ne vont plus être sur mon couloir et qu'est-ce qui se passe et gagner ma course. Ça va plus être se regarder, mais en fait, par rapport à celui qui court à côté de moi, est-ce que finalement je fais bien ou je fais mieux, je fais moins bien? Et finalement, mon regard ne va plus être sur la course que je mène, mais sur la course de l'autre. Je crois que dans l'imitation, c'est plutôt que quelqu'un court avant moi et que j'ai envie de courir après cette personne parce que je reconnais des choses chez elle qui m'inspirent. Et je crois qu'on a la chance d'être dans une église où on a beaucoup de super imitateurs de Jésus et de gens chez qui on peut trouver des exemples et des modèles pour les imiter. Et ça, je pense que c'est clairement quelque chose de bon et de biblique. D'ailleurs, Paul dit « Soyez mes imitateurs » et puis on sait aussi que notre vie, c'est imiter Christ en toutes choses. Et je crois que ce n'est pas la même chose parce qu'on a, c'est comme si on avait un coureur devant nous. On veut lui courir après, et puis peut-être un jour, il nous passe le relais, il nous apprend ce que lui, il a appris, son expérience et ses dons, et de ça, on est nourri. J'avais envie juste de faire cette parenthèse pour pas qu'on confonde les choses. Alors maintenant qu'on a identifié que tout ça, ça peut nous pousser à un problème, finalement, la comparaison, je voudrais voir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse par rapport à ça et à quoi il nous encourage. Et pour ça, je me propose d'aller voir dans une histoire de la Bible. Souvent, on l'appelle la parabole des talents, et on peut aussi l'appeler la parabole des serviteurs et du maître. C'est une histoire qui se trouve dans Matthieu 25, versets 14 à 30, si vous voulez suivre avec vos Bibles. Donc pour vous rappeler juste le contexte de ce passage, Jésus est en train de parler sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Et puis les disciples lui demandent comment ça va se passer la fin des temps, et quand est-ce qu'il va revenir, et les circonstances par rapport à la fin, et quand Jésus reviendra. Donc Matthieu 25, 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Ce passage est une parabole, c'est une histoire que Jésus racontait pour donner un exemple et faire une image de quelque chose de plus grand. Dans cette parabole, le maître, c'est Jésus, et nous, nous serions représentés par les serviteurs. On est dans un temps où on voit le maître est parti, et il laisse les serviteurs en leur confiant quelque chose. Nous, on est dans ce temps-là aussi, où Jésus n'est plus là avec nous physiquement, son esprit est là, mais il est parti, et on sait qu'un jour, il reviendra pour juger chaque être humain, et nous attendons du coup son retour. La première chose qu'on peut regarder dans cette histoire, si on fait cette comparaison, c'est qu'on a chacun des responsabilités. On est tous concernés, tous responsables. On m'a appris ce matin que c'était aussi le slogan de la sécurité routière. Bon, ça peut justement être un bon moyen mnémotechnique. On voit la première chose, c'est que dans cette parabole, le maître a confié à chaque serviteur quelque chose. Il n'y en a aucun qui peut dire qu'il n'a rien reçu. Et je crois que c'est très important pour nous de se rappeler qu'on a reçu quelque chose de la part de Dieu, qu'importe ce que c'est, qu'importe la quantité et qu'importe à quoi ça peut ressembler. Pour certains, ça peut être justement de l'argent, ça peut être des ressources financières, ça peut être des personnes que Dieu nous confie, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos amis, des personnes de notre communauté ou dans notre travail, des personnes de notre communauté locale de l'Église, ou ça peut être des capacités que Dieu nous a données, des dons. Ça peut être le temps que Dieu nous donne sur terre, tout simplement. Ça peut être nos ressources, qu'elles soient physiques, mentales. C'est tout ce que Dieu peut nous confier, finalement. Et on a tous reçu une part de ça. Personne ne peut se disqualifier en disant « j'ai rien reçu ». Ce n'est pas possible. La deuxième chose, c'est que Dieu nous a confié des choses qui sont précieuses et qui ont une valeur inestimable. En regardant un peu cette parabole, si on fait la comparaison, un sac d'argent, c'était 25 ans de travail, 25 ans de salaire. Donc imaginez la somme que ça pourrait représenter pour vous, 25 ans de salaire, qu'on vous remet comme ça, sans rien demander. Je crois que ce qu'il y a derrière cette parabole, c'est que ça nous montre que ce qu'on reçoit de la part de Dieu, ça a une valeur inestimable. Ce que Dieu nous confie, qu'importe à quoi ça ressemble, comme j'ai cité juste avant, c'est des choses extrêmement précieuses et importantes pour Dieu, qui ont de la valeur. Et qu'on ne regarde pas ces choses comme bah, « non, c'est pas très important ». Non, au contraire, Dieu nous confie des choses et des personnes qui ont une valeur inestimable. On peut se rappeler aussi que la vie que Dieu nous donne, elle est précieuse parce que Jésus nous a rachetés au prix de son propre sang. Le Fils de Dieu est mort pour nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme si nos vies n'avaient pas de valeur. Elles ont de la valeur auprès de Dieu. Troisième chose que j'aime beaucoup dans cette parabole, c'est que Dieu est juste. Je me régale de voir comme le maître, quand il va voir les serviteurs, il va les voir individuellement. Et puis, il ne les compare pas les uns aux autres, au contraire. Il leur demande des comptes d'après ce qu'il sait qu'il leur a confié lui. Il ne leur demande pas s'ils ont fait aussi bien les uns que les autres. Et c'est tellement rassurant de savoir qu'à la fin de nos vies, Jésus va nous juger non pas par rapport à quelqu'un d'autre, et il ne viendra pas me voir en me disant « Daniel, est-ce que tu as fait aussi bien que David ? Est-ce que tu as fait aussi bien que Farid ?» Il me dira « Non, Daniel, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai confié à toi ?» Et c'est tellement important qu'on se rappelle ça, qu'on se rappelle que Dieu est juste dans sa façon de nous juger et qu'il nous demandera des comptes justes par rapport à ce qu'il nous a donné. Enfin, la quatrième chose, je trouve, c'est que Dieu nous rend responsables et nous demande de faire fructifier ce qu'il nous a donné. Et les fruits ne viennent pas toujours, parfois ça prend du temps, Mais je crois que l'important, c'est dans une démarche de vouloir faire fructifier. On sait qu'il y a des saisons dans la vie où on n'utilise pas toujours les mêmes dons, les mêmes choses. Et c'est important de pouvoir avoir la patience aussi d'attendre. Mais je crois que finalement, ce que nous apprend cette parabole, c'est que le serviteur qui a été mis dehors, c'est celui qui n'a rien fait avec ce que Dieu lui a donné et qui a enterré ce que Dieu lui avait donné. Je crois que Dieu nous attend au tournant quelque part pour qu'on fasse fructifier ce qu'il nous a donné. Et il nous en rend responsable. C'est aussi une marque d'amour et une marque d'affection et même de confiance que Dieu nous donne. Alors tout cela étant dit, peut-être vous vous dites, mais oui, mais bon, là, on ne voit pas trop de solutions finalement à sortir de ce rapport de comparaison qu'on peut avoir tous les jours. Alors je réfléchissais à quelques pistes qui peuvent nous aider. La première chose, je pense, qui peut être fondamentale, c'est de cultiver la reconnaissance. Comme on voit dans cette parabole, chacun a reçu quelque chose. Et je crois que c'est fondamental pour nous de prendre le temps d'être reconnaissant pour ce que Dieu nous a confié. Plutôt que de regarder ce que les autres ont reçu à côté, essayons plutôt de regarder, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné à moi ? Il m'a donné des choses qui sont précieuses, qui sont inestimables, qui sont importantes. À quel point c'est important de pouvoir les reconnaître, être reconnaissant pour ça. Et comme on l'a vu, être satisfait au départ avec ce qu'on m'a donné. Pourquoi ? Parce que finalement, ce que Dieu me donne, je ne le mérite pas. Et il n'était pas obligé de me le confier, mais Dieu le fait pourtant. Et je crois que ce n'est pas toujours facile, des fois, peut-être de reconnaître ce que Dieu nous confie. Peut-être qu'on a du mal à voir nos dons, peut-être qu'on a du mal à reconnaître les choses auxquelles il nous appelle. Et je crois qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider dans ce domaine. Je sais que pour ma part, j'ai été béni parce que j'ai grandi dans des milieux d'église où il y avait beaucoup de prophéties et c'était exercé de façon saine, très souvent. Et ça m'a permis d'avoir plein de paroles que d'autres personnes ensuite ont confirmées ou des situations ont confirmées. Et ça m'a donné beaucoup de directions pour savoir à quoi Dieu m'appelait, quels étaient mes dons, mes capacités. Et ça aide énormément à finalement plus avoir le regard sur les autres, mais se dire, mais moi, qu'est-ce que Dieu m'a confié au travers de ça et qu'est-ce que j'en fais de ces paroles qu'il m'a confiées. C'est aussi au travers des encouragements que les uns et les autres, on peut se donner. Quand on voit quelqu'un qui réalise quelque chose et qui le fait bien, pouvoir le lui dire, je crois que tu as un don là-dedans ou je crois que Dieu veut te parler là-dessus. Je crois que Dieu veut t'encourager dans ce domaine. C'est aussi au travers de nos dons, de nos intérêts, de nos centres d'intérêt, de ce qu'on sent que Dieu met dans nos tripes quelque part, que Dieu nous parle. Et puis, je rappelle aussi qu'en tant qu'Église et responsable, on est là aussi pour aider chaque personne à identifier son appel, ses dons. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, et que vous posez des questions là-dessus, que vous dites, je sais que j'ai un sac d'argent, mais je ne sais pas trop quoi et à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à solliciter des responsables aussi pour vous accompagner là-dedans. Le plus important, comme je disais, c'est de se mettre en marche avant tout. Donc, peut-être la première chose serait ça, être reconnaissant et reconnaître qu'est-ce que Dieu vous a donné. Soyons satisfaits de ce qu'il nous donne, comme Jackie l'a dit tout à l'heure aussi, ce rapport de satisfaction aussi, de compter les bienfaits de Dieu qu'il nous donne. La deuxième chose, je pense, qui peut nous aider, c'est plutôt que d'être dans une comparaison par rapport aux autres autour de nous, de plutôt nous juger par rapport à nous-mêmes. Et si je reprends l'idée de la course, si je suis un coureur, plutôt que de regarder ce qui se passe dans les autres couloirs, me dis, moi, par rapport à ma course, est-ce que je fais mieux que ma course précédente ? Est-ce que j'ai avancé par rapport à la fois précédente ? Est-ce que je suis dans une démarche où, justement, en allant vers Jésus et en voulant lui ressembler plus, je me mets en marche et je grandis dans ces domaines ? Ça peut être, qu'est-ce que je fais des paroles prophétiques qu'on m'a données ? Est-ce que je les ai mises en application ? Est-ce que dans les domaines où j'ai des choses qui me limitent, des obstacles, est-ce que je fais quelque chose pour sortir de ça, pour avancer ? Est-ce que je grandis à la ressemblance de Jésus ? Et je crois que c'est important de temps en temps de se poser face à nous-mêmes et puis avec Dieu dans la prière, et puis de faire un bilan un peu là-dessus, de se dire, bon Seigneur, qu'est-ce que je fais de ce que tu me donnes, de mon temps, de mon énergie ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es content de ça ? Est-ce qu'il y a un domaine où j'ai enterré encore et j'ai besoin de déterrer ? Et je crois que c'est beaucoup plus, sans tomber sur l'apitoiement sur soi, je crois que c'est beaucoup plus sain de se comparer à nous-mêmes, parce qu'aussi chacun en a une histoire différente, des capacités différentes, et c'est beaucoup plus logique de partir de moi l'an dernier. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai avancé ? Est-ce que je me rapproche de Jésus ? Est-ce que je suis de plus en plus passionné par lui ? Et est-ce que je rentre dans l'appel qu'il a pour moi pour cette saison où je suis ? Et je crois que la troisième chose que nous enseigne aussi cette parabole, c'est que c'est important de garder les yeux sur le maître, de garder nos yeux sur Jésus. Le rémunérateur de notre foi et celui qui va nous juger à la fin des temps, ce n'est pas les gens qui nous entourent, c'est Jésus. Et c'est le seul devant qui on va comparaître. Et c'est le seul aussi qui nous a donné ses dons et qui pourra nous en demander des comptes ultimement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de discussion à avoir avec d'autres personnes et que personne n'a droit de regard sur ma vie, mais c'est me rappeler qu'ultimement, dans l'éternité, la vie d'une personne est importante, c'est celui de Jésus. Nous vivons pour lui et pour personne d'autre. Alors qu'importe si je fais moins bien ou mieux que la personne autour de moi, si je sais que je fais ce que Jésus me demande, c'est ce qui devrait le réjouir le plus mon cœur. Par rapport à ça, j'avais un texte que j'avais envie de nous rappeler, dans lequel Paul nous parle, il parle aux Romains, et il parle justement des dons. Donc c'est marrant, je ne savais pas d'où allait parler juste avant, et puis je crois que ça a été inspiré. Ce passage dans Romains 12, où Dieu nous dit, Paul nous dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi qui lui a été donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne, le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance, le fasse avec joie. » Et pour reprendre l'image un peu des coureurs, j'avais envie de nous laisser là-dessus. Je crois que c'est important de se dire qu'on part tous du même stade, comme nous dit ce passage. On ne part pas tous du même stade. On a des dons différents, des appels différents, et c'est important qu'on soit en paix par rapport à ça. Et que même on puisse louer Dieu pour la différence des dons, pour la personne qui est à côté de nous, et du fait qu'elle nous est complémentaire et qu'elle fait quelque chose que nous, on ne ferait pas forcément. Et aussi se réjouir de ce que Dieu nous a donné à nous, finalement. De se réjouir de faire partie d'un corps dans lequel on a de la complémentarité et où on peut travailler les uns avec les autres. C'est tellement beau d'avoir toutes ces couleurs, toutes ces capacités différentes, et de pouvoir les exercer les uns avec les autres et se bénir mutuellement au travers de ça. Si je reprends l'idée de la course, c'est nous encourager finalement à courir notre course à nous, plutôt que d'essayer de courir celle de quelqu'un d'autre, tout en sachant qu'on ne part pas forcément du même stade avec les mêmes dons, et que Jésus, ce qu'il nous appelle à faire, c'est le servir avec joie, avec les dons qu'il nous a donnés, et en étant en paix sur le fait qu'on n'a pas reçu pareil. Le plus important, c'est courir ma course. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je pense que c'est un sujet qui est important, et du coup, j'avais envie de nous proposer de prier par rapport à ça. Donc si on peut tous se lever peut-être ?